nos frères de l'Assemblée du Grand Wassi hein, qui se réunissent aussi aujourd'hui. Et prions pour que le Seigneur fasse aussi son œuvre là-bas. Alors, je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible. On continue nos études dans l'Évangile de Jean. Donc, l'Évangile de Jean. De Matthieu. Pourquoi j'ai dit Jean? Je sais pas. Matthieu, hein, l'Évangile de Matthieu. Bonjour. Nous sommes à Matthieu chapitre 5. Et on a commencé depuis quelque temps ce qu'on appelle communément le sermon sur la montagne, hein, le passage qui va de Matthieu chapitre 5 jusqu'à chapitre 7, à la fin du chapitre 7. Donc nous allons lire ensemble les versets Matthieu chapitre 5 et nous allons lire à partir du verset 27, Matthieu chapitre 5 et à partir du verset 27 jusqu'au verset 32. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commette un adultère. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de nous éclairer dans ta parole. Nous sommes conscients de notre faiblesse, de notre petitesse et nous te prions de nous illuminer par ton Esprit Saint. Garde nos pensées, nos cœurs en toi et guide-nous dans l'enseignement de ta parole. Nous te prions dans ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Je n'ai pas d'horloge, je ne vois pas trop quelle heure il est là-bas, donc j'ai toute latitude, je crois. Ouais, vous me dites hein, si vous voyez qu'il est 14 heures. Hein. Voilà. Nous allons considérer aujourd'hui les versets 27 jusqu'au verset 30. La semaine prochaine, nous attarderons sur les versets 31 et 32 qui traitent plus précisément de la question du mariage, du divorce et du remariage. Donc les versets 27 et jusqu'au verset 30 sont ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui. Nous ne devons pas donc oublier que le Seigneur est en train ici de décrire les citoyens du royaume des cieux. Il a donné une description condensée, on pourrait dire un peu générale dans les Béatitudes, verset 1 au verset 12, avec « Heureux ceux qui », vous vous rappelez de cela. Dans les versets 12 à 16, il a évoqué la fonction du disciple dans le monde, le sel et la lumière, et nous avons été enseignés là-dessus avec le thème « La vie distinctive du disciple ». Et puis, le Seigneur aborde à partir du verset, des versets que nous avons, donc à partir du verset 17, une nouvelle étape dans, on pourrait dire, dans son enseignement. Et donc, il va affronter l'enseignement des pharisiens, des scribes, enfin ce que les gens avaient entendu à partir des pharisiens et des scribes, avec son propre enseignement, avec sa propre interprétation de la loi. Et il affirme donc qu'il est venu non pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Et après cette introduction, donc verset 17 jusqu'au verset 20, à partir du verset 21, il va rentrer plus précisément dans quelques éléments, quelques commandements de la loi pour mettre en contraste quel était l'enseignement des scribes et des pharisiens et quelle est la pensée de Dieu sur les commandements qu'il a donnés. Et il dit au verset 20, « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, eh bien, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et pour les auditeurs de Jésus, c'était une affirmation bouleversante parce que pour eux, les scribes et les pharisiens, c'était des gens qui étaient à ce niveau-là. Hein. Tout le monde les regardait béat d'admiration. C'était des gens qui étaient extrêmement pointilleux sur l'observation de la loi de Moïse. Ils étaient tellement pointilleux qu'ils rajoutaient des choses pour être certains de ne pas oublier. Jésus dit, ne leur dit pas, il faut que votre justice soit comme celle des pharisiens. Il dit qu'il faut qu'elle soit au-dessus de celle des pharisiens. Donc si vous n'êtes vous, en qualité, en quantité, en profondeur, votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Il va donner donc des illustrations de cela, et on a vu la semaine dernière, la première illustration qu'il donne, eh bien c'est sur la colère, et on avons été enseignés là-dessus, sur l'unité qui doit régner dans le royaume. Il prend le sixième commandement où il est dit « tu ne tueras point » et il montre aux pharisiens, enfin à ses auditeurs, que l'enseignement qu'ils ont reçu là-dessus n'est pas celui qui va beaucoup plus loin que ce à quoi ils se sont ici arrêtés. Et toute cette section qui va du verset que nous avons lu ici, 21 jusqu'au verset 44, est remplie de cette formulation, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Ou bien, il a été dit, mais moi je vous dis. Vous trouvez ça au verset 22, verset 28, verset 32, verset 34, verset 39 et verset 44. Et donc, après avoir considéré le sixième commandement, tu ne tueras point, eh bien, Jésus considère ici, à partir du verset 27, le septième commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Exode chapitre 20, verset 14. Et Jésus va faire une exposition claire de ce commandement et montrer en quelque sorte les implications pour les citoyens du royaume des cieux. Alors, qui est concerné par ce que Jésus dit ici de l'adultère? Eh bien, si ça dépend de la définition, on pourrait dire qu'on a de l'adultère dans notre esprit, hein. On pense, bon, l'adultère, c'est une relation entre quelqu'un qui est marié, d'accord, avec quelqu'un qui n'est pas sa femme ou son, qui n'est pas son conjoint, en tout cas. Et donc, bon, si on n'est pas dans ce cas-là, si on n'est pas marié, les questions d'adultère, ça ne nous concerne pas. Pas du tout, hein, ici. Là, vous remarquez que Jésus dit quiconque, tout homme, hein, quand il explique au verset 28, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoitée a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc tous nous sommes concernés. Tout le monde est concerné. Et de toute façon, pour l'enseignement biblique, la relation sexuelle n'a de sens, n'est définie que dans le cadre du mariage. D'accord? Donc dès que l'on parle dès que l'on parle de relations sexuelles dans la Bible, ça n'est défini que uniquement dans le cadre du mariage. D'accord? Donc quand la Bible parle d'adultère, tout le monde est concerné. Okay? Parce que ça veut dire qu'on est forcément hors de ce cadre. Donc toutes les relations, tout type de relations sexuelles sont concernées tant qu'elles ne sont pas dans le cadre du mariage, parce que c'est seulement dans ce cadre-là que la Bible définit la relation sexuelle. Donc la manière avec laquelle Jésus parle ici autorise à étendre, on pourrait dire, la notion d'adultère à toute immoralité sexuelle. D'accord? Toute immoralité sexuelle est donc concernée par ce que Jésus dit ici. Donc Jésus montre que la justice exigée pour les citoyens du royaume des cieux, c'est la pureté du cœur. Heureux, rappelez, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc nous voulons voir d'abord que ce que Jésus fait, en premier lieu, c'est qu'il établit la véritable nature de l'adultère. Jésus établit la véritable nature de l'adultère. Les scribes et les pharisiens avaient une vision fausse du péché en général et de l'adultère en particulier. Et certainement, les auditeurs de Jésus avaient embrassé un peu ce qui était l'enseignement habituel des pharisiens là-dessus. Et Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Leur interprétation du 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère, était erronée parce que leur compréhension de la nature de l'adultère était certainement en fausse. Et notre société aussi a une vision, sa vision de ce que c'est que l'adultère et de ce que c'est que l'immoralité sexuelle. Les scribes, les pharisiens avaient restreint l'adultère à un acte purement extérieur, une relation sexuelle d'un homme avec une femme mariée. Ils s'appuyaient certainement sur le Lévitique 20, verset 10, qui dit « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère, il dit deux fois en plus, avec une femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. » Et on voit à quel point c'était grave aux yeux de Dieu. La mort suivait ce qui était adultère. C'était le châtiment qui était donné à ce qui était adultère. Et donc, les pharisiens avaient réduit cela, un homme avec une femme mariée. Donc, si on n'est pas strictement dans ce cas de figure-là, on n'est pas accusé d'adultère et nous avons gardé donc la loi. Mais Jésus montre ici que l'adultère est avant tout un problème de cœur. L'adultère est avant tout un problème de cœur. Moi, je vous dis que si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ces pharisiens, satisfaits de ce qu'ils n'avaient pas commis d'acte physique avec une femme mariée, pouvaient prier. Luc chapitre 18, verset 11, vous vous rappelez la prière du pharisien debout dans le temple. Il dit « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Ils étaient profondément attachés aux actes qu'ils accomplissaient. « Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Et dans leur esprit, tant qu'un acte physique n'était pas commis, ils avaient gardé le commandement de Dieu. Mais Jésus dit, vous pouvez ne jamais avoir accompli un acte physique d'adultère et être néanmoins coupable d'adultère devant Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous pouvez ne jamais avoir accompli de votre vie un acte physique d'adultère et néanmoins être adultère aux yeux de Dieu. Parce que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si vous avez regardé, si vous avez convoité, vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur. Et donc Jésus affirme que l'adultère est commis dans la pensée, dans l'imagination, dans le cœur même de celui qui regarde une femme pour la convoiter, même si cela ne se traduira jamais par une relation physique. La parole de Jésus indique que l'on est déjà coupable bien plus tôt qu'on ne le pense. On est déjà coupable bien plus tôt qu'on ne le pense. Pour nous, la culpabilité est toujours attachée à un acte, hein, à un fait que l'on peut voir. On peut dire, ah voilà, la preuve, tu l'as. Mais Jésus dit que la culpabilité, elle est déjà bien avant qu'un acte soit commis. Autrement dit, l'acte physique d'adultère n'est que la manifestation, on pourrait dire aboutie, de l'adultère qui a eu lieu déjà dans le cœur, dans la pensée, dans l'imagination. Et ce n'est, si vous voulez, en quelque sorte que le fruit qui se trouve au bout de la branche de l'arbre. D'accord ? Le fruit n'est pas tout. Il a fallu l'arbre et la branche pour amener le fruit. Voyez. Donc c'est l'adultère, c'est déjà au niveau de l'arbre et des racines que cela se produit. L'apôtre Jacques dit « Chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Le péché, c'est l'enfant de la convoitise. Donc c'est l'acte physique, ce n'est pas que l'acte physique qui est un péché. D'accord ? Ça, c'est la manifestation visible du péché. Le péché a déjà eu lieu dans le cœur. Et il dit même que c'est l'adultère qui, la manière avec laquelle c'est écrit, hein, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère, dit que l'adultère a même déjà été commis, et c'est à cause de l'adultère qu'on regarde avec convoitise. Vous voyez ici? Donc la chose apprise a été conçue déjà dans le cœur. Jésus disait en Matthieu 15, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Matthieu chapitre 15, verset 19. Il montre aussi que l'adultère utilise toutes les facultés de l'être humain. L'adultère utilise toutes les facultés de l'être humain. C'est l'adultère dans le cœur, on l'a dit, motive le regard chargé de désir. Mais une fois que l'adultère est amorcé dans le cœur, eh bien, il y a mobilisation de toutes les facultés. Et ici, en l'occurrence, le regard. Parce que Jésus dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Alors, Jésus ne condamne pas le fait de regarder quelqu'un. Quand on parle à une sœur de l'Église, on la regarde. Normalement. Sinon, il faut tourner la tête et puis parler comme ça. Ça paraîtrait plutôt étrange. Donc, ce n'est pas le fait de regarder. Et cette parole du Seigneur non plus n'est pas contre l'appréciation de la beauté. Peut-être je vais dire, ah, c'est une très belle femme. Ça n'est pas un péché, hein, d'apprécier, de reconnaître au moins sainement la beauté. La Bible même parle de la beauté et à la fois et des hommes. C'est David, je crois, où il s'est dit qu'il était beau de figure hein, et de taille ou quelque chose comme cela. Et puis, la beauté aussi des femmes. Hein. Par exemple, lorsque le serviteur d'Abraham est allé chercher une femme pour Isaac, eh bien, il a rencontré Rebecca et le texte dit « C'était une jeune fille très belle de figure. » Le texte insiste hein, sur la superbe beauté de cette jeune fille. Il ajoute, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Je crois que ça couronne encore davantage la beauté que la Bible veut mettre en évidence. Et donc je dirais, jeune fille qui est ici ce matin, notez en passant que cette virginité est soulignée par le Saint-Esprit et c'est cette virginité qui sublime hein, la beauté, bien plus que la beauté du visage ou du corps. Je crois que cette pureté, cette virginité et cette beauté que la parole de Dieu met en évidence. Ce que Jésus pointe donc du doigt, ça n'est pas le fait de regarder simplement, mais c'est le fait que le regard s'attarde avec une intention de posséder. La Bible insiste beaucoup sur le rôle du regard dans le péché. Adam et Ève, la Bible dit que pour Ève, elle vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Dans Genèse chapitre 39, verset 7, vous vous rappelez de cet épisode entre la femme de Potiphar et Joseph. La Bible dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître, donc la femme de Potiphar, porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. D'accord? Donc, ses yeux sont portés sur ce jeune homme et son cœur s'enflamme de désir. Et elle lui fait cette demande. La Bible nous parle du cas de David. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Oui, le texte insiste encore là-dessus. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien, ça aurait dû l'arrêter là, terminé. Mais non, il a vu, son cœur était déjà rempli de désir, ses yeux ont vu, et donc David envoya les gens pour la chercher. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc on note ainsi le rôle souvent primordial joué par les yeux en matière d'immoralité sexuelle. L'apôtre Pierre, parlant des impies, il les qualifie en ce sens. Il dit, ils ont les yeux pleins d'adultère. Ils ont les yeux pleins d'adultère. 2 Pierre 2, verset 14. Donc, les yeux, tout ce qui constitue l'être peut être mobilisé et utilisé par l'adultère. Les facultés auditives aussi, que les yeux sont utilisés. Proverbe chapitre 7, regardez Proverbe chapitre 7. Vous avez décrit ici dans la Bible le caractère de la femme prostituée, hein, et bien sûr de ceux qui vont vers les femmes prostituées. On va pas lire tout le chapitre, vous pouvez le lire à la maison, mais verset 8, il est dit, verset 6, j'étais à la fenêtre de ma maison, je regardais à travers mon treillis, j'aperçois parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Il est encore hésitant. Et après, le texte continue et cette femme, bien sûr, commence à lui parler. Et elle lui dit tout un tas de choses. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès, de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac, l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Écoutez cela, verset 21. Elle le séduisit à force de parole. Elle le séduisit à force de paroles et elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Verset 22, il se mit tout à coup à la suivre comme un bœuf. Il était lentement et là il est tout à coup, d'accord, le pas certainement s'accélère. À cause de paroles, ça peut être les yeux, ça peut être les oreilles, l'adultère peut pénétrer par n'importe quel moyen. Ça peut être les facultés mentales aussi. Hein? Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal, dit Proverbe chapitre 16, verset 30. On peut commettre l'adultère avec les yeux ouverts, mais on peut aussi le commettre avec les yeux fermés. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. lorsque les images et les scènes et les situations sont déjà imprimées dans le disque dur biologique que nous avons ici, à force de l'avoir exposé à l'impudicité, on n'a plus besoin de regarder. Il suffit de fermer les yeux pour voir et ainsi commettre l'adultère dans le cœur. L'adultère est autant physique que mental. Il siège dans les pensées, dans l'imagination, bien plus qu'il ne se concrétise, chers frères et sœurs, dans des actes. Et dans le livre La Guerre Sainte, vous vous rappelez, on a lu ce livre il n'y a pas très très longtemps, La Guerre Sainte de John Bunyan, on se souvient de tous les efforts qui étaient mis pour garder quoi? Vous vous rappelez? Les portes de la ville. La ville s'appelait comment? Immortelle, hein? Ou âme humaine, ça dépend comment. Immortelle. Hein? Et il fallait mettre des gardes à la porte des yeux et à la porte des oreilles. Et surtout la porte des oreilles. Parce que c'est souvent par là qu'entre des enseignements, ce que l'on entend, etc. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, vous avez appris, ils ont reçu par leurs oreilles un enseignement. Et il dit, dans ce livre, il est question de mettre vraiment tous les efforts pour garder fortement tous les accès. Parce que, eh bien, l'ennemi s'attaque partout où il y a des ouvertures. Il rentre par les ouvertures naturelles, les yeux, les oreilles, etc. Les membres du corps, en général, sont neutres, hein, mais ils peuvent être utilisés par les dispositions intérieures que nous avons dans les cœurs. L'apôtre Paul dit aux Romains, « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre cœur, de votre chair, pardon, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. » Les membres peuvent être des esclaves d'iniquité pour commettre l'iniquité. Il dit de même que vous avez fait cela. Eh bien, maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Donc, les membres peuvent être aussi, ils sont neutres. Tout dépend de la disposition de cœur qu'il y a à l'intérieur. Le regard dépend de la disposition qu'il y a à l'intérieur du cœur. Si le cœur est pur, le regard est pur. Si le cœur est impur, le regard est impur. C'est ce qu'enseigne Jésus ici. Et puis, l'adultère, on l'a dit, hein, utilise toutes les facultés de l'être, mais aussi l'adultère, Jésus le montre, se contente bien souvent d'une intention sans consommation extérieure. L'adultère peut se contenter d'une intention mental, sans consommation physique extérieure. Les pharisiens étaient satisfaits de leur absence de relation sexuelle avec une femme mariée. Mais Jésus leur dit, moi je vous dis, quiconque regarde une femme avec le désir de la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc Jésus affirme que l'adultère peut se contenter de l'absence d'acte. Parce qu'il condamne l'adultère dans le cœur qui n'a pas eu de consommation extérieure. Donc, il dit que l'adultère peut, ici, se contenter de l'absence d'acte et se contenter simplement de l'intention. Quelle différence, chers frères et sœurs, chers amis, existe-t-il entre celui qui a physiquement commis l'adultère et celui qui ne l'a commis que dans son cœur? C'est quand même pas la même chose. D'un côté, on a un acte, et de l'autre, on a une intention, quelque chose qui est dans l'imagination, mais qui est bien réel, et qui est condamnable, et qui mérite l'enfer, comme le signale Jésus. Quelle différence y a-t-il? Eh bien, c'est juste une question d'opportunité. C'est juste une question d'opportunité. Il n'y a pas lieu d'être satisfait en disant, oui, moi j'ai dépensé. Mais je n'ai pas commis d'acte. Lui, il l'a fait. On n'est pas mieux. C'est juste parce que nous n'avons pas eu d'opportunité favorable. Peut-être, par la grâce de Dieu, nous sommes placés avec des gens autour de nous qui nous aident, dans un foyer équilibré. Et puis l'autre, il n'a pas ces circonstances-là. Tout péché, disait un auteur d'intention dont les circonstances empêchent la consommation, est commis aux yeux de Dieu, qui regarde au cœur. Tout péché d'intention, d'accord, dont les circonstances ont empêché la consommation. Frédéric Godet qui dit cela. Eh bien, ce péché est commis aux yeux de Dieu qui regarde au cœur. Nous sommes en train d'étudier, quelques-uns d'entre nous, un livre que le frère Vincent a traduit, de John Owen, qui s'appelle « La mortification du péché ». Et donc c'est un auteur puritain du XVIIe siècle, 1616, 1683. Il écrit ceci, « Le péché vise toujours le maximum. Chaque fois qu'il se lève pour tenter ou séduire, s'il avait libre cours, il irait vers le péché le plus haut de sa catégorie. Chaque regard ou pensée impure serait un adultère s'il le pouvait. Chaque désir envieux serait une oppression. Chaque pensée d'incrédulité serait l'athéisme s'il pouvait croître jusqu'à maturité. Des hommes pourraient se trouver dans la situation, on peut même pas entendre le péché prononcé de paroles scandaleuses dans leur cœur, c'est-à-dire provoquer à quelque grand péché, d'accord ? Mais tout éveil de la convoitise, s'il avait libre cours, atteindrait les hauteurs de l'infamie. Il est comme la tombe qui n'est jamais satisfaite. Ce que l'on peut dire ici, c'est que lorsque le péché est conçu dans le cœur, sa consommation n'est qu'une question d'opportunité, de circonstances. Et nous pouvons remercier Dieu pour les circonstances qui nous empêchent d'aller jusqu'au bout. Mais le péché qui est dans notre cœur ferait pareil qu'il commet chez les autres. Parce qu'il cherche toujours à s'exprimer de manière maximum. Maximum. C'est pour cela que Dieu le condamne déjà dans le cœur. Et qu'il demande de faire des choses pour le réfréner et pour le mortifier. Parce que sinon, il va se développer jusqu'au plus haut point. Certains diront, mais quand même pas exagéré. C'est pas si grave quand même, quand on commet un acte dans sa pensée, c'est virtuel. C'est pas réel. Hein? C'est dans l'intellect. Mais c'est néanmoins réel, parce que c'est condamné par Dieu. Bien sûr, on peut pas dire que celui qui a commis l'adultère physiquement, et celui qui l'a commis dans la pensée, c'est exactement la même chose. C'est pas ce que je suis en train de dire ici. D'accord ? Parce que les conséquences, quand même, ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Les deux sont condamnables, et les deux, s'ils ne sont pas, on s'est pas repenti pour cela, conduisent à la condamnation, conduisent à l'enfer. Mais ça n'est pas forcément exactement la même chose. Le premier, dans le cœur, peut conduire au second, dans les actes. Si on pense que c'est la même chose, il y a des gens qui disent, mais à ce moment-là, puisque je suis déjà condamné, je l'ai commis de ma pensée, autant le faire dans les actes. Hein. Faites ça avec ce que Jésus a dit juste dans les versets d'avant, quand il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras point, mais celui qui se met en colère, c'est un meurtrier. Dites, ben, je me suis déjà mis en colère. Alors, autant que je tue mon frère, parce que c'est pareil, je suis condamné. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit, n'est-ce pas? Il ne faut pas que ça nous vienne non plus à l'esprit pour ce septième commandement non plus. Donc, pour résumer rapidement ce que Jésus dit sur la nature de l'adultère. Eh bien, l'adultère est d'abord une affaire de cœur et non de corps et non d'acte. L'adultère utilise toutes les facultés de l'être pour se développer ici. Et on vient de voir que l'adultère peut se contenter d'une intention sans consommation extérieure. Ça, c'était le premier point. Le second que je voudrais développer, ce sont les implications du commandement contre l'adultère. Après avoir présenté la nature de l'adultère, on peut voir que Jésus insiste sur les implications du commandement contre l'adultère. Moi, je vous dis, dit-il, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. L'enseignement des pharisiens avait consisté en partie à restreindre la portée de ce commandement de Dieu pour les faire tenir dans ce qu'ils étaient capables, eux, de supporter ou d'accomplir. Et en indiquant la véritable nature de l'adultère, Jésus enseigne comment le commandement « Tu ne commettras point d'adultère » doit être observé. Il parle d'abord de ce qu'il montre ici que les implications du commandement de Dieu sont sans limite. Autant le péché atteint toutes les sphères de l'être, le corps, la pensée, l'imagination, le cœur. Le commandement de Dieu va aussi, s'applique à toutes les sphères de l'être. Le péché a lieu dans le corps, le commandement de Dieu s'applique donc au corps. Le péché se produit dans l'imagination, mais le commandement de Dieu s'applique aussi à l'imagination. Le péché a lieu dans les pensées, bien le commandement de Dieu s'applique aussi aux pensées. Le regard est utilisé pour pécher, et bien le commandement de Dieu s'applique aussi au regard, à la parole, à l'écoute. La loi de la République, va vous condamner si vous avez commis un meurtre. Mais elle ne va pas nous condamner si nous avons eu une pensée secrète de colère contre quelqu'un. La loi de la République va nous condamner si nous avons violé une femme. Mais elle ne va pas nous condamner si nous l'avons regardée, déshabillée du visage, du regard, pardon, et que nous avons commis, comme Jésus le décrit, l'adultère avec elle dans notre cœur. La loi de la République a pour champ d'application uniquement les actes du corps. Elle punit ce qui est commis physiquement. Enfin, pas l'adultère maintenant, mais pour ce qui est du vol ou des choses comme cela. Mais pour la loi de Dieu, il n'en est pas ainsi. Il s'applique à toutes les sphères de l'être humain. Et le psalmiste dit, psaume 119, 96, « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. La perfection a des limites. Mais le commandement de Dieu est sans limite. Il s'applique à tous les hommes, il s'applique à toutes les sphères des hommes. Donc le commandement de Dieu, dit Jésus ici, implique que tout soit mis en œuvre pour y obéir. On peut imaginer des questions que les gens pourraient poser à Jésus, mais c'est impossible dans le monde actuel d'éviter les images, les sollicitations. Je ne peux pas empêcher à mon œil de voir toutes ces choses. Et bien Jésus dit, vous devez tout mettre en œuvre pour l'empêcher. Et si ton œil pourtra une occasion de chute, eh bien qu'est-ce que tu fais avec? Arrache-le, jette-le loin de toi. Si ta main droite est pourtra une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Qu'est-ce que Jésus veut enseigner ici? Bien, il veut dire que le commandement de Dieu implique de repérer toutes les occasions de chute et de les mortifier radicalement. Repérer et tuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je repère le péché et je tue. Quelqu'un avait dit, tuez le péché sinon il vous tuera. Donc Jésus dit, c'est une occasion de chute, tu le coupes, tu le jettes loin de toi. Donc il y a une question de radicalité dans ce qui est exigé ici par Jésus. Qu'est-ce qu'une occasion de chute? C'est tout ce qui peut contribuer au développement de l'impureté sexuelle dans ma pensée, dans mon cœur, dans mon corps, dans mes actes. Et notez bien que rien ne doit échapper à cet examen minutieux. Les choses, Jésus dit, bon, bien sûr, ce n'est pas à prendre littéralement. Il y a des gens qui ont pris ça littéralement, et qui se sont mutilés physiquement, d'accord, pour tenter de répondre au commandement de Dieu ici. Il est évident que s'il suffisait de perdre ses deux yeux, perdre ses deux mains, perdre ses deux pieds, pour être sans péché, tous ceux qui sont dans ces cas, il y a des gens comme ça, ils seraient purs, hein. Bien sûr. Il ne faut pas prendre cela littéralement, mais la radicalité qui est demandée ici doit être prise littéralement. C'est le caractère radical et qui n'épargne absolument rien, même ce que nous avons de plus précieux, comme un œil droit ou un bras droit. Ce qui peut nous être, qui nous est peut-être même utile, ne doit pas échapper à cela. Toutes les occasions de chute doivent être répertoriées. Tous les objets, téléphone portable, émissions radio, films télévisés, internet, magazine, amitié, conversation, livre, habit, tout doit être considéré, analysé. Et si c'est une occasion de chute, il faut s'en séparer radicalement. Arrache-le, dit Jésus. Il ne dit pas pousse-le, mets-le de côté. Il dit arrache-le et jette-le loin. C'est l'enseignement du commandement. Bien sûr, aucune mutilation dans le corps, aucune jupe longue ne permettra la purification du cœur. D'accord ? C'est pas par des œuvres qu'on est sauvé. Mais celui qui professe être citoyen des cieux doit avoir cet objectif de purification et mener une guerre véritable contre le péché. L'apôtre Paul dit en Colossiens chapitre 5, Colossiens chapitre 1 à 4, il parle de cette position du chrétien avec Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, dit-il. Et puis au verset 5 derrière, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il dit, faites mourir ces choses. Là, Job avait dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Faites un pacte avec vos yeux. C'est ce que Jésus dit ici. Faites-le, tu l'arraches de manière, tu fais un pacte, tu le brides, tu l'empêches de voir, de regarder ce qui peut être une occasion de chute pour toi. Le septième commandement donc implique une attitude active qui va jusqu'au bout dans la lutte contre l'immoralité sexuelle. C'est exactement la même chose que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens quand il dit « Fuyez l'immoralité sexuelle, fuyez la débauche ». On ne discute pas avec l'immoralité sexuelle, on ne négocie pas, on fuit, comme Joseph a fui face à la femme de Potiphar. Quelqu'un disait, vous pouvez raisonner avec la pensée qui vous dit, je vais mettre quelques zéros de moins sur ma déclaration d'impôt. Bon, c'est pas juste, mais après tout, vous dites, oh, quand même, c'est pas bien, parce que, bon, le Seigneur nous demande de ne pas tricher, quand même. Donc, je vais pas le faire. Ok, bon, et puis, de toute façon, avec l'électronique, maintenant, c'est tellement facile, ils vont me retrouver. Déjà, le service a déjà envoyé ma paye avant que moi je remplisse ma fiche, ils vont, et après, voilà, vous allez raisonner, vous raisonnez avec ça. Mais, si vous êtes dans un appartement avec quelqu'un, une femme, vous dites pas, bon, on va discuter un peu, savoir si, qu'est-ce que je dois faire? Bon, non, bon, imaginez Joseph ici, il dit, oh, écoute, bon, attends, on va réfléchir un peu. On va réfléchir un peu. Hein? Voilà ce que Dieu dit. Et son mari arrivait maintenant? Okay, on ne discute pas. Il n'a pas discuté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses jambes à son cou et il a fui. Il a laissé son vêtement derrière. Il y a des situations, il y a certains péchés avec lesquels on peut raisonner. Mais en ce qui concerne l'immoralité sexuelle, on ne badine pas. Il faut être radical. C'est ce que Jésus dit ici. Il faut fuir. Il faut jeter. Je connais des gens qui ont jeté leur télé. J'écoutais un sermon d'un prédicateur qui dit qu'une fois un jeune est venu le voir, il lui a dit, bon écoute, voilà, j'ai des problèmes avec l'immoralité sexuelle. Il dit, mais écoute, tu mets un filtre sur ton ordinateur. Et puis si ça marche pas, tu jettes l'ordinateur.
Il a dit, jeter l'ordinateur, mais je peux pas. Je n'ai besoin pour travailler, je peux pas vivre sans ordinateur. Il a dit, c'est pas vrai. Il dit, moi, je vis sans ordinateur depuis que j'existe. J'ai jamais eu d'ordinateur. Et c'est un prédicateur qui sillonne la planète pour prêcher. Oh, pas d'ordinateur. D'accord. On a cru que tous les objets que nous avons maintenant sont indispensables. Et que sans eux, nous ne pouvons pas vivre. Okay. C'est une pensée qu'il faut radicalement jeter loin de soi. D'accord ? Commence par jeter la pensée, et après on va jeter l'ordinateur s'il faut jeter l'ordinateur. Mais Jésus dit, il faut être radical. Peu importe ce que les autres pensent, il faut être radical. Il ne faut pas hésiter de faire des concessions. Il implique donc une radicalité que tout doit être cherché ici, repéré, toutes les occasions de chute, et puis tout doit être mortifié radicalement. Il implique aussi de développer tout ce qui favorise la pureté sexuelle. Le commandement ne commettra point d'adultère, c'est un commandement négatif, mais il implique que l'on favorise tout ce qui contribue à son contraire. Pas seulement faire des efforts pour arrêter l'acte interdit, mais faire des efforts pour développer ce qui est opposé à l'acte interdit. J'ai lu dans le catéchisme élargi de Westminster, vous savez, il y a un certain nombre de questions, et une des questions c'était, quelles sont les règles à observer pour la bonne compréhension des 10 commandements? Et une des réponses qui est donnée, la quatrième, parmi une série de réponses, c'est quand le devoir est commandé, le péché contraire est défendu. Et puis, quand un péché est interdit, le devoir contraire est commandé. Je reprends. Quand le devoir est commandé, le péché contraire est défendu. Exemple, si vous prenez la tentation de Jésus, il dit au diable, retire-toi Satan, car il est écrit, et ça c'est le commandement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ça c'est le commandement. Il dit, quand ce commandement-là est donné, d'accord, tout péché qui serait contraire à cela est interdit. Donc toute adoration de quelqu'un d'autre est interdite. Le Seigneur Dieu lui seul, l'adoration est interdite pour tous les autres. Et si c'est un péché qui est interdit, le devoir contraire est commandé. Par exemple, l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, verset 28, il dit que celui qui dérobait ne dérobe point. Donc c'est le commandement, tu ne déroberas point. C'est une interdiction. Le péché du vol est interdit. Et l'apôtre Paul ne dit pas que celui qui dérobait ne dérobe point. Point. Qu'est-ce qu'il dit? Mais plutôt qu'il fasse quoi? Qu'il travaille, et puis qu'il fasse quoi? C'est pas fini? Pour avoir de quoi? Voilà. Subvenir à ses besoins et donner à celui qui est dans le besoin. Non seulement il ne vole pas, ça c'est le commandement, mais il va agir de manière à aller dans le sens contraire. C'est-à-dire, il y aura une attitude positive. Il va travailler, et maintenant il va donner. Au lieu de voler, il donne. Okay. Si on applique cela à notre thème de ce matin, on voit que ce que Jésus dit, quand il dit « tu ne commettras point d'adultère », cela implique aussi un devoir positif de pureté sexuelle. Il s'agit de faire la promotion de la pureté sexuelle. La promotion de la pureté par modestie vestimentaire, par exemple. Je veux que les femmes soient vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, et se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Okay? Il parle de la promotion de la pureté sexuelle par l'honneur du mariage, que le mariage soit honoré de tous, que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, voyez, il faut tout faire pour favoriser le contraire. Donc, promouvoir la pureté sexuelle. Mais le commandement implique aussi d'aider les autres à obéir au commandement que Dieu donne. Je termine avec ça. Une autre réponse qui était dans le catéchisme de Westminster, c'était de dire que dans ce qui est commandé aux autres, nous sommes tenus selon nos lieux et nos appels de leur être utile. Quand quelque chose est commandé à quelqu'un, je suis tenu de l'aider dans le commandement qui lui est donné. C'est bibliquement dit. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, je crois, dans Philippiens chapitre 4, versets 2 et 3. Il dit, j'exhorte Évodie et Syntyche à être d'un même sentiment. Voilà l'exhortation, voilà le commandement qu'il leur est fait. Elles doivent marcher dans l'unité, elles doivent avoir un même sentiment. Et il ajoute, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles ont le commandement, je dis pas, oh, c'est le commandement, il faut qu'elles obéissent, point barre. Qu'elles se débrouillent. Il dit, non, toi, tu les aides dans le commandement qu'il leur est donné. Donc nous ne pouvons pas dire, pour revenir à notre thème, que c'est le problème de l'autre. La question de la pureté sexuelle est le problème de l'autre. La femme qui fait profession de servir Dieu ne peut pas dire « je m'habille comme cela me plaît ». Ainsi, je me sens élégante avec mes talons aiguilles, ma jupe courte et mon pull moulant. C'est à ces messieurs de veiller à leur propre cœur, à leur imagination. Je ne vais tout de même pas m'habiller comme un cosmonaute, non? Eh bien, l'apôtre Paul dit, fidèle servante du Seigneur, je te prie de les aider, d'aider ces messieurs. Écoutez ce qu'un auteur qui s'appelle Arthur Pink a écrit. Il a dit, si regarder pour convoiter est un péché si grave, alors celle qui s'habille et qui s'expose avec le désir qu'on les regarde et qu'on les convoite, ne sont pas moins, mais peut-être plus coupables. Dans ce domaine, non seulement les hommes pêchent trop souvent, mais les femmes les incitent à le faire. Alors, combien grande doit être la culpabilité de la vaste majorité des demoiselles modernes qui cherchent délibérément à éveiller les passions sexuelles des jeunes hommes? Et encore, plus grande est la culpabilité de la plupart de leurs mères qui les laissent devenir des tentatrices lascives. Ne rigolez pas à l'époque, hein? Ne nous jugeons pas, l'apôtre Paul dit, les uns les autres. Mais pensez plutôt à ne rien faire, qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter aux bonnes œuvres et à l'amour. Si excitation il doit avoir de la part d'une catégorie sur l'autre, que ce soit l'excitation à l'amour et aux bonnes œuvres, selon ce que nous venons de lire de Hébreux chapitre 10, verset 24. Troisièmement, dernièrement, plus courtement, je vous promets, Jésus montre que le commandement aussi doit toujours se vivre dans la perspective éternelle. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne ou dans l'enfer. Et puis il le dit deux fois, un peu plus bas, il dit, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne, autrement dit dans l'enfer. Et donc il est important de considérer cette perspective éternelle. Jésus place ici la question dans la perspective de l'éternité et du salut et de la perdition éventuelle de l'âme. Ce n'est pas la perte consentie sur la terre qu'il faut considérer, mais c'est le risque de la perdition éternelle qu'il faut considérer. La vie ici-bas doit être menée en calculant les avantages spirituels éternels. Que servirait-il un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? D'accord. Donc la question de l'âme doit être constamment devant les yeux. Avant de dire, c'est comme ça que je veux faire, c'est comme ça que je veux m'habiller, c'est ainsi que je veux parler aux gens. Le péché nous fait regarder les choses toujours d'un point de vue temporel et terrestre. Et on cherche toujours des satisfactions immédiates. Le monde nous dit, écoute, vis ta vie, lâche-toi, libère-toi, fais plaisir à ton corps. La vie est courte, tu sais. Et Jésus dit non. Jésus dit, c'est là qu'il faut penser. Il faut penser à la vie à venir. Et si tu trouves que c'est trop dur de mutiler une activité, eh bien, choisis ton activité plutôt que la damnation. C'est-à-dire qu'il y aura la damnation à la fin. Donc Jésus, il dit pas ici que en faisant tout ça, tu auras le ciel, mais il dit, mais si tu es un citoyen du ciel, celui qui veut avoir une justice qui surpasse celle des pharisiens, il vit en ayant un cœur transformé, donné par Christ, mais en recherchant en acceptant ces mutilations nécessaires et en ayant comme perspective une perspective éternelle. Ne savez-vous pas, dit l'apôtre Paul, que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, et les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Il dit que celui qui vit dans l'adultère n'a aucune assurance qu'il sera dans le royaume des cieux. Celui qui est un enfant de Dieu doit mortifier la chair, le péché, pour vivre comme Dieu le demande, en maintenant la perspective du salut de son âme. Je termine avec les applications. Premièrement, ce commandement de Dieu, comme tous les autres, nous pousse à reconnaître notre besoin de Christ. L'exigence élevée de la loi n'est pas faite, chers frères et sœurs, pour nous donner la satisfaction, mais pour nous plonger dans le désespoir et nous faire sentir notre besoin de Christ. Donc ça ne sert à rien de se mortifier en disant « je suis perdu, l'adultère, ça me connaît ». C'est pas ce que Jésus demande de faire ici. Il dit de reconnaître le péché et de venir à lui. Il est un Dieu de grâce. Il veut nous purifier. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Toute l'intervention de Jésus, c'est pour dire aux gens, venez à moi. Je vais vous pardonner, je vais vous délivrer. Je suis venu pour accomplir la loi. Je vais vous donner cette justice qui vous permet de vivre comme Dieu le commande. Donc si vous ne connaissez pas Christ aujourd'hui, vous pouvez venir à lui et demander pardon pour vos péchés. Oui, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, peu importe à quel point vous avez été ancré dans l'immoralité sexuelle, Dieu, Jésus-Christ, veut vous pardonner et vous purifier. Et à partir d'aujourd'hui, vous permettre de vivre une vie pure à la gloire de son nom. Et si nous sommes un enfant de Dieu, nous avons en nous l'Esprit de Christ, qui nous permet, Romains 8, chapitre 13, de mortifier les actions du corps. Nous, c'est notre responsabilité de le faire. Et venons à Christ dans la repentance. Reconnaissons notre adultère du cœur, peut-être. Et venons dans la repentance à Christ pour lui demander pardon. Donc ce passage nous montre notre besoin de Christ. Deuxièmement, la parole de Dieu fait autorité indiscutable en matière de sexualité. On vit dans une société hyper sexualisée. Depuis la libération sexuelle, voilà. C'est le sexe à tout va partout. N'importe quelle publicité pour n'importe quel objet est sexualisée. Et on baigne dans une société hyper sexualisée. Que faire? Ça n'est pas les normes de la société qui doivent déterminer ce que nous devons faire. C'est la parole de Dieu. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit. Moi, je vous dis. Et c'est ce que Dieu dit qui doit constituer notre doctrine. S'il dit que l'adultère est commis dans le cœur, s'il dit de mortifier, de ne pas regarder, de jeter, faisons-le. C'est sa parole qui fait autorité. Parce que cette parole, il dit que c'est elle qui nous jugera au dernier jour. C'est pas la culture. C'est la parole de Dieu qui va nous juger. C'est pas ce que nous avons vécu. Parfois, on voudrait que ce que nous avons vécu soit considéré dans la norme de Christ afin de ne pas se sentir trop coupable. Non! Acceptons notre culpabilité. Laissons la parole de Dieu telle qu'elle, avec toute sa puissance, avec son standard élevé. Mais faisons ce que Dieu nous dit pour demander pardon. C'est vers cela que nous devons tendre. Nous ne devons pas tirer la parole pour la ramener au niveau de notre culture ou de notre vie. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Pierre dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Notre obéissance aussi au commandement concernant la pureté sexuelle doit être sans limite. La Bible dit, tu as donné tes ordonnances, pas pour qu'on les accroche comme un tableau sur le mur. On a des fois des ordonnances de Dieu qui sont dans nos maisons, sur les murs. Tu as donné tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Ce que dit le psaume 119, verset 4. Donc il nous appartient de mettre tout en œuvre, absolument tout, pour lutter contre la pollution de l'immoralité sexuelle dans notre propre vie, de celle de nos enfants et de celle de nos frères et sœurs. Tous les accès de la ville doivent être bien gardés. Garde ton cœur, dit le proverbe, plus que toute autre chose, car de lui dépendent les sources de la vie. Nous devons faire tous les efforts pour cela. S'il ne faut plus aller à la plage parce qu'on ne peut plus marcher sans s'avancer, sans marcher sur un corps dénudé, eh bien n'allons plus à la plage. C'est ça que ça veut dire. Mais il faut le faire. Il y va de notre pureté de cœur. Et veillons les uns sur les autres. Veillons à chaque occasion pour ne pas être une occasion de chute pour les autres. Vous pourrez citer beaucoup de versets, mais vous pouvez noter Philippiens 4, 8, 2 Corinthiens 10, 5, Romains 13, 13, 14. On n'a pas le temps de lire tous ces passages, mais ils sont importants. Ils nous donnent des pistes pour pouvoir lutter contre la luxure et le péché dans notre vie. Et puis aussi, je termine avec ça, maintenir présent l'importance de la destinée de notre âme. Toujours. Réfléchir toujours dans cette perspective de la destinée de l'âme. La vie sur la terre, c'est la préparation de la destinée éternelle. C'est pas fait pour que nous puissions jouir des choses. C'est la préparation de la destinée éternelle. Quand on lit l'histoire du riche et de Lazare, c'est exactement ce que l'on a. Lorsqu'il est au ciel, lorsqu'il est plutôt dans le séjour des morts, il dit, Père Abraham! Et qu'est-ce qu'il lui dit, Père Abraham? Retourne sur la terre et rappelle-toi ce que tu as vécu sur la terre. La vie sur la terre, et la préparation de la destinée éternelle. Donc, regardons les choses de cette manière-là. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Que le Seigneur nous aide à comprendre la nature du péché, particulièrement de l'adultère. Qu'il nous aide à comprendre les implications de son commandement, et qu'il nous aide à garder une perspective éternelle dans notre considération des choses. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, et je te prie que tu, par ton esprit, tu nous aides à l'accepter, à accepter tes standards et à la mettre en pratique. Fais ton œuvre dans notre vie, nous te prions. Amen.